démocratie dans mon
pays. VOA Afrique, les infos. À Washington, Idrissa Dia.
Bonsoir, il est 16h temps universel. L'Union européenne a annoncé ce jeudi qu'elle ne soutenait pas la tenue la semaine prochaine d'élections au Soudan, estimant qu'elles ne peuvent donner un résultat crédible et légitime dans tout le pays. C'est ce que rapporte l'AFP. Président depuis près de 26 ans, Omar el-Bashir, réclamé par la Cour pénale internationale qui le soupçonne notamment de génocide au Darfour, est assuré d'être réélu alors que la plupart des partis de l'opposition boycottent l'élection comme en 2010. Les Somaliens qui subissent eux aussi des attentats Shebab et leurs proches vivant au Kenya, eh bien, se sentent victimes d'une punition collective après la fermeture de fait par les autorités kenyanes des compagnies de transfert d'argent indispensables à la survie de beaucoup en Somalie. Cette mesure a des conséquences directes pour moi parce que je ne peux pas toucher l'aide que m'envoie ma fille commerçante au Kenya, explique Abdissalam Mohamed, un habitant de Mogadiscio. Pour lui, il s'agit d'une mauvaise décision qui punit collectivement tous les Somaliens, rapporte l'AFP. Le Kenya a gelé mercredi les comptes bancaires de 85 personnes et entités suspectées de liens avec les islamistes somaliens Shebab, responsables de l'attaque du 2 avril contre l'université de Garissa qui a fait 148 morts, dont 142 étudiants. Arrestation en Ouganda d'un ancien détenu de la prison américaine de Guantanamo. Jamal Kiyemba est soupçonné d'avoir joué un rôle dans le meurtre le mois dernier dans la capitale ougandaise de la procureure John Kagezi. Les précisions de Claire Morin-Gibourg.
Kiyemba, qui est ougandais, a été appréhendé en compagnie de trois compatriotes à Kampala, a indiqué hier Fred Enanga, porte-parole de la police. Arrêté au Pakistan en 2002, Kiyemba avait été envoyé à Guantanamo. Il a regagné l'Ouganda après sa libération en 2006. Selon les autorités ougandaises, des agents gouvernementaux américains ont appuyé l'opération, ayant abouti à ses arrestations. Le service Swahili de la VOA chiffre à 16 le nombre total de personnes interpellées en rapport avec le meurtre, le 30 mars dernier, de la procureure Joan Kagezi.
En RDC, la mission de l'ONU MONUSCO prête à aider les autorités congolaises dans l'enquête pour faire la lumière sur le dossier de la fosse commune contenant 421 dépouilles découvertes aux environs de la capitale. Au Burkina Faso, le gouvernement de transition salue le bon déroulement du vote qui a conduit à l'adoption du nouveau code électoral. Il demande à l'ensemble des acteurs de la classe politique, de la société civile et des populations d'accompagner sa mise en œuvre. Selon ce texte adopté par le Conseil national de transition, les partisans du président déchu, Blaise Compaoré, sont exclus des élections présidentielles et législatives d'octobre. Un mois après l'échec des pourparlers de paix sud-soudanais, les médiateurs est-africains du conflit qui ravage le jeune pays depuis décembre 2013 veulent accentuer la pression sur les belligérants en associant l'Union africaine et l'ONU aux négociations. Jean-Roger Bion.
Un nouveau plan de règlement est aussi en préparation selon les diplomates interrogés par l'AFP. Il propose de nouveau un accord de partage de pouvoir entre les chefs des deux camps belligérants, le président sud-soudanais Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar. Cette question est l'un des principaux points de blocage à un accord politique devant mettre fin au conflit. Le nouveau processus de négociation envisagé par l'organisation intergouvernementale Est-Africain IGAD et baptisé IGAD+, associerait notamment l'Union africaine et l'ONU, mais aussi la Chine qui a d'importants intérêts pétroliers au Soudan du Sud, de même que la Troïka, États-Unis, Royaume-Uni, Norvège, principal artisan de l'accord de paix signé en 2005 entre Juba et Khartoum et qui avait ouvert la voie à l'indépendance du Soudan du Sud en juillet 2011. Cet élargissement doit permettre d'accroître la pression des Africains sur les partis et resserrer les rangs au sein de l'IGAD, a su un diplomate impliqué dans les négociations. L'IGAD a également changé de stratégie en rédigeant un accord cadre à soumettre aux partis plutôt que de les laisser négocier négocier entre elles, comme c'était le cas jusqu'ici, ce qui avait donné lieu à des discussions interminables et largement stériles.
Selon l'AFP, l'ancienne vice-présidente zimbabwéenne Joyce Mujuru, en guerre ouverte avec le président Robert Mugabe, conteste son exclusion du parti au pouvoir, affirmant qu'on ne pourrait jamais lui faire quitter le mouvement où elle milite depuis sa jeunesse. Madame Mujuru, 59 ans, avait perdu sa vice-présidence en décembre. Elle a été exclue la semaine dernière de la ZANU-PF, le parti dominant depuis l'indépendance, accusée entre autres d'avoir comploté contre le vieux dirigeant.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Yémen, les combats font rage au 15e jour des frappes aériennes de la coalition arabo-sunnite. Un nouveau raid a touché le ministère de la Défense et une base de la garde républicaine alliée aux Houthis. Aujourd'hui, dans le même temps, les différents protagonistes du conflit multiplient les déclarations diplomatiques. Claire Morin-Gibourg.
Les bombardements de la coalition dirigée par l'Arabie saoudite sont intenses et l'UNICEF s'est de nouveau alarmé sur l'enrôlement et la mort d'enfants dans ces combats, l'agence onusienne appelant à une solution pacifique. Dans le même temps, c'est l'escalade verbale entre les différents acteurs du conflit. Washington a haussé le ton contre l'Iran, l'accusant de tenter de déstabiliser la péninsule arabique. Le secrétaire d'État américain John Kerry a affirmé sans détour que son pays savait que l'Iran armait les rebelles chiites houthis ayant pris la capitale Sana'a et de vastes régions du Yémen avant de déferler vers le sud. Les États-Unis ne resteront pas les bras croisés, a-t-il ajouté. De son côté, le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, s'en est pris à l'Arabie saoudite dont les bombardements sont, selon lui, de véritables actes criminels. Dans le cadre du renforcement de son soutien, l'armée de l'air américaine a commencé à ravitailler en vol des avions de la coalition, selon le Pentagone. La diplomatie américaine a précisé qu'elle ne cherchait pas la confrontation avec Téhéran, mais qu'elle n'abandonnerait pas ses amitiés et ses alliances.
Le numéro 1 iranien, Ali Khamenei, a par ailleurs averti aujourd'hui qu'il n'y avait pas la garantie de parvenir à un accord final avec les grandes puissances sur le programme nucléaire de son pays, douchant ainsi l'optimisme ambiant après la conclusion d'un accord cadre sur ce dossier. L'ayatollah Khamenei, qui a le dernier mot sur les dossiers stratégiques dont le nucléaire, s'exprimait pour la première fois au sujet de l'accord cadre conclu le 2 avril à Lausanne. En Suisse, l'Iran et le groupe du P5+1 se sont donnés jusqu'au 30 juin pour tenter de régler les détails techniques et juridiques complexes en vue de trouver un accord définitif qui mettrait fin à 12 ans de crise diplomatique internationale. Des talibans vêtus d'uniformes militaires ont pris d'assaut jeudi une cour d'appel de Mazar-i-Sharif, grande ville du nord de l'Afghanistan, généralement épargnée par les violences faisant au moins 2 morts et une 30aine de blessés, ont indiqué des responsables dans un nouveau bilan. Les assaillants ont lancé des grenades sur le tribunal, puis ouvert le feu sur les forces de sécurité afghanes et incendié un des bâtiments de ce complexe judiciaire, selon un journaliste de l'AFP sur place. Les talibans afghans ont revendiqué auprès de l'AFP cette attaque. Un homme poursuivi pour banqueroute frauduleuse a ouvert le feu ce matin au tribunal de Milan, bilan 3 morts dont un juge abattu dans son bureau. C'est ce que nous rapporte l'AFP. Les tirs ont également fait 2 blessés, dont un dans un état grave, selon les secours. Dans des circonstances encore peu claires, l'homme a ouvert le feu dans la salle d'audience où il comparaissait au 3e étage du bureau avant de descendre au 2e étage, tuer le juge dans son bureau. La chaîne francophone TV5 Monde, piratée mardi soir par des individus se réclamant du groupe djihadiste État islamique, pouvait ce matin diffuser des programmes enregistrés, mais n'était pas encore en condition de produire et diffuser ses journaux. Voilà, c'est tout pour ce bulletin. Prochain rendez-vous dans 50 minutes.
Soyez au cœur de l'info